France Inter. Le 18-20, Fabienne Saint-Esse.
Chahinez, 31 ans, c'était à Mérignac, Stéphanie, 22 ans, à Hayange, Julie en Corse, le procès de son ex-compagnon se tient en ce moment même et le verdict aura lieu demain. Trois cas, trois histoires très récentes, à chaque fois le même fil directeur, le compagnon violent est connu, déjà suivi, on le sait, dangereux et pourtant il parvient à tuer. Si ce sont ces trois-là que l'on met en avant ces derniers jours, c'est parce qu'ils traduisent des dysfonctionnements parfois terrifiants, parce que justement c'est le cas de Julie qui avait poussé à l'organisation d'un Grenelle dont on se souvient tous et qui parlait déjà de bracelets anti-rapprochement, de places d'hébergement, de numéros d'urgence 24-24, d'une grille d'évaluation du danger commune pour les forces de l'ordre, etc., etc. Des mesures, il y en a, on demandera d'ailleurs à nos invités ce soir, il ne s'agit pas de dire que personne ne fait rien, parce que c'est pas vrai. La prise de conscience, grâce aux activistes, grâce aux fondations, grâce aux pétitions, elle est là, bien sûr. Mais alors, pourquoi ça marche pas? Pourquoi les chiffres des féminicides sont en train de repartir à la hausse? Pourquoi on ne sait pas enrayer réellement ce phénomène? Surtout lorsque l'on voit nos voisins espagnols, on les cite tout le temps en exemple, mais le fait est qu'ils sont vraiment bons parce que chez eux, ça marche. La police, la gendarmerie, la justice, les juges, les procureurs, ce sont ces courroies-là qui, semble-t-il, ont du mal à communiquer entre elles, sans parler des bracelets qui existent, mais qui ne sont pas en service, des lignes d'urgence qui sont là, mais pas en service non plus. On parle de plateformes communes pour policiers et magistrats, on parle de justice spécialisée, mais tout cela, ça coûte de l'argent. Est-ce que ça veut dire que si l'argent coulait à flot, alors on serait nettement meilleur et on saurait tout faire? Où sont les progrès qui doivent aussi être faits dans nos gestions des plaintes, des condamnations, des compagnons violents? C'est pour ça que nous avons voulu que cette émission ce soir et ce dialogue se fasse avec une avocate et un juge aux affaires familiales. C'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus. Bonsoir.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Jean-Michel, c'est vous le premier. Bonsoir Jean-Michel et bienvenue.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, moi, je voulais intervenir. Moi, j'ai un mauvais rôle dans l'histoire, parce qu'en fait, moi, je suis le méchant, quoi. Parce que j'ai été marié pendant une dizaine d'années, et donc, au bout d'un certain laps de temps, la discussion, il n'y en avait plus, quoi. Donc, je ne savais que, on va dire, on va pas se cacher, je ne savais que frapper, quoi. Et donc, pendant quelques temps, ça se réglait au sein de la famille, quoi, entre moi et ma femme. Les enfants, malheureusement, ils étaient témoins de tout ça, quoi. Et un jour, ça s'est pas passé comme ça, en fait. Elle a été directement à la gendarmerie. Et la gendarmerie, ben, ils sont venus à la maison, ils étaient en garde à vue. Et j'ai été 24 ans en garde à vue. J'ai eu une convocation pour passer au tribunal. Et en fait, j'ai eu 2 mois de prison avec sursis. Mais en fait, ça m'a fait un déclic parce qu'en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit que, en fait, je reproduisais ce que mes parents m'avaient montré, quoi. Mm-hmm. Donc, parce que pendant très longtemps, moi, mes parents, c'était grand rodéo, comme je disais, à la maison, hein, ça se battait sans cesse. Et en fait, ça m'a fait un déclic. Je voulais pas reproduire ça avec mes enfants. Moi, j'avais pas d'armes, hein, mais je comprenais bien que juste avec les mains, on pouvait faire très mal.
Mais ça veut dire tout seul, Jean-Michel. Vous avez eu ce déclic. Est-ce qu'on vous y a emmené? Est-ce que vous avez vu du monde? Comment ça s'est passé, en fait,
non,
pour
non,
que...
Non, moi, j'étais en garde à vue. Le lendemain, je suis sorti. Ils l'ont mis dans un foyer, là, pour la protéger. Et elle est restée quelques temps dans le foyer, mais elle est revenue à la maison. On s'est remis ensemble quelques temps après, mais à partir de ce moment-là, je ne l'ai plus frappée. Par la suite, on a divorcé, hein, parce qu'on ne s'entendait plus. Mais moi, ça m'a permis de me remettre en question, quoi, les 2 mois de prison, là. Et en fait, de moi-même, j'ai demandé à suivre une thérapie. J'ai été suivi par le centre médico-psychologique, il me semble. Ouais, ça a duré 2 ans et demi, 3 ans. Mais ce que je voulais dire, moi, surtout, c'est que moi, en fait, ça a été bien pour moi, quoi. Autant pour mon ex-femme que pour moi. Parce que moi, ça m'a permis de me remettre en question. Mmh. Et ce qu'il y a eu, c'est que la réaction du parquet, là, elle a été très rapide. Elle n'y a pas été une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Non, là, ça a été directement. J'étais en garde à vue direct. Et puis, il me semble que même pas 4 mois après, ben, j'étais condamné.
Dites-nous juste, Jean-Michel, ça s'est passé à quel moment? On parle de quelle période?
Moi, c'était il y a 8 ans, il me semble.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup. J'allais dire, c'est courageux. Je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut employer, en fait. Mais en tout cas, vous venez et vous le dites, Jean-Michel, ça prouve que il y a des choses qui se sont passées dans votre tête. Et pour ça, je vous remercie pour avoir cette discussion tous ensemble jusqu'à 20h sur France Inter. Zoé Royaux est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate pénaliste, porte-parole de la Fondation des Femmes. Et Cécile Mamelin est avec nous également.
Bonsoir,
Mme Mamelin. Vous êtes première vice-présidente chargée des affaires familiales au tribunal tribunal judiciaire de Béthune et vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Voilà, c'est dit. On peut au moins saluer ça dans le témoignage de Jean-Michel Zoé Royau. Voilà, il y a une prise de conscience. Ça se passe pas toujours de cette manière. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est les fois où les choses se passent bien.
Ou pas trop mal.
Il y a eu des violences. On est bien d'accord.
Il nous dit ça reste dans la famille et puis ensuite elle va déposer plainte à ce courage-là.
Quand on dit que ça se passe bien, on va dire c'est que oui, la réponse semble-t-il a été adéquate à ce moment-là. Elle a surtout été immédiate et rapide.
Oui. Oui, donc ça c'est effectivement une bonne chose, une réponse immédiate et rapide. Et lui qui nous explique aujourd'hui, malgré la séparation très bien, mais qu'il a un déclic et qu'il a compris. Donc ça veut dire que la justice a fait aussi œuvre de répression mais de pédagogie. Donc c'est
voilà, pour le coup, police et justice ont vraiment été très très réactifs. Et ça effectivement, c'est dans un monde un petit peu idéal.
Exactement.
Peut-être à l'époque, il y avait moins de difficultés aussi et moins de plaintes parce qu'on a effectivement suscité chez les femmes, et c'est ce qui est formidable d'ailleurs parce qu'il le faut. On a suscité davantage de réactions pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est pour ça que maintenant on a une montée en puissance. Non pas, je pense, qu'il y ait plus de violences, en tout cas ça n'est pas véritablement démontré, mais il y a effectivement une prise en charge. Du coup, effectivement, on fait appel beaucoup aux services de police et de justice qui actuellement sont beaucoup plus sujets et beaucoup plus débordés par le nombre de plaintes.
C'est pour ça que je demandais à Jean-Michel effectivement à quel moment ça s'était passé pour lui. Aujourd'hui, et avec les dysfonctionnements qu'on connaît, Zoé Royau, alors c'est heureusement pas à chaque fois comme ça, mais comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que le moment du dysfonctionnement, c'est précisément l'enchaînement qui a eu lieu là avec Jean-Michel, où il s'est retrouvé avec quelqu'un à la porte de chez lui, en garde à vue immédiatement? Est-ce que c'est là le point de basculement, en fait? Il se passe rien après la plainte d'une femme, ou en tout cas pas ce qu'il devrait se passer?
Oui, effectivement, on a des plaintes qui ne sont pas suivies des faits, parquets qui ne sont pas forcément toujours assez réactifs. Mais là, je voudrais pas pointer une erreur qui serait humaine, c'est plutôt un manque de moyens humains et donc de moyens financiers. Vous avez commencé comme ça et vous avez eu raison. Donc chaque affaire est particulière. En même temps, malheureusement, dans les féminicides, c'est toujours un petit peu le même scénario qu'on peut noter, avec un manque de communication entre les différents acteurs et actrices de la chaîne judiciaire, pénale, mais aussi civile, d'ailleurs. Et il faut que l'information soit partagée pour que le danger soit vraiment réalisé et pris en compte.
Qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup dit pendant le confinement que les cas de violence conjugale avaient été évidemment très importants. Hélas, on a vu des choses importantes, on a vu des hommes battre leurs femmes, on a même mis en place un certain nombre de numéros pour essayer de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. En termes de chiffres, semble-t-il, et parce qu'on avait peur justement pendant cette période-là, les chiffres sont tombés.
Oui.
En gros, ce que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce qu'on a su faire là pendant cette période, parce qu'on sentait l'urgence, que semble-t-il déjà on ne sait plus faire.
Parce que là, effectivement, on a mesuré le fait que les violences allaient probablement être explosées, et les forces de l'ordre se sont concentrées sur ces violences, mais simplement aussi parce que d'autres délits pendant ce temps-là n'étaient pas commis. Tout bêtement, les gens ne sortaient pas, il y avait le confinement, les gens étaient un peu cloîtrés chez eux, et bien évidemment, ils n'ont pas eu d'autres affaires à traiter et se sont concentrés, ce qui montre bien que dès lors qu'on a des moyens dédiés, des moyens humains dédiés, des moyens financiers dédiés, des équipes spécialisées qui peuvent s'attaquer à ce problème endémique qui date quand même de très longtemps et dont les pouvoirs publics ont mis du temps quand même en France à saisir. Je rappelle que l'Espagne, ça fait effectivement 10 ans que le bracelet anti-rapprochement existe, ce qui a permis de faire en sorte qu'on baisse de 75% de femmes qui ont été victime d'homicide avant et maintenant, qui est passée à 20% lorsqu'effectivement il y a un bar d'installé. Nous, on a mis 10 ans entre le début, entre l'idée de la création du bracelet anti-rapprochement et son existence effective, qui, je vous rappelle, n'est que de 6 mois.
Oui,
et donc on ne peut pas demander à la justice de faire en 6 mois ce qui n'a pas été fait depuis des dizaines d'années.
Et on s'est rendu compte aussi qu'il y en avait un certain nombre qui étaient là dans les tiroirs, comme disait le ministre lui-même, effectivement. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs techniquement, et encore une fois, on parle d'effectifs, donc on parle évidemment d'argent. Qu'est-ce qui se passe techniquement avec un bracelet anti-rapprochement à partir du moment où celui qui porte le bracelet s'approche trop près du domicile de son ex-compagne? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche exactement comme un bracelet électronique d'un...
Oui,
et donc, théoriquement, il doit se passer quoi dans la foulée derrière, en fait?
Ça veut dire que ça sonne, et puis du coup, ça alerte ceux qui sont reliés à ça, donc services de police qui sont reliés, et ça les alerte, ça permet de venir immédiatement sur les lieux. C'est parfois assez mal vécu, les femmes espagnoles l'ont dit, subies par les femmes parce qu'elles se sentent surveillées. Et c'est très anxiogène de savoir que ça peut sonner à n'importe quel moment. Elles sont géolocalisées, et l'auteur aussi. Il faut avoir l'accord de l'auteur hein, pour qu'il le porte, évidemment. Donc voilà, mais ça peut être tout à fait efficace. On n'a pas encore assez de recul sur ce moyen.
Enfin, je précise qu'il faut l'accord en matière civile quand c'est un JAF, mais quand c'est en matière pénale, on peut lui imposer le bar. Par contre, bien effectivement, la victime, donc l'épouse ou la conjointe,
se sent,
peut ne pas prendre ce dispositif, et il faut savoir que parfois, ça peut malheureusement être le cas. Ce n'est pas la majorité, mais ça peut être le cas. Donc il y a ce qu'on appelle des zones de préalerte et des zones d'alerte qui sont prises en charge par l'opérateur de télésurveillance. On prévient effectivement de l'auteur qui entre dans cette zone de préalerte, et ensuite, s'il entre dans la zone d'alerte, là, ce sont les services de police qui effectivement peuvent aller l'interpeller. Oui. Donc il y a une effectivité de la réponse qui est certaine, et l'Espagne l'a démontré.
Pas seulement d'ailleurs, avec des choses que vous réclamez aussi, et notamment à la Fondation des Femmes, je pense pas seulement au numéro grave danger, je pense à la fusion des fichiers par exemple entre police et justice, je pense à un fichier aussi, il y a des choses qui sont-elles, j'allais dire, qui semblent faciles, après tout peut-être pas tant que ça. Est-ce que ce serait facile et rapide à mettre en place fichier qui ressemblerait au fichier ADN en fait qu'on a pour les crimes?
Ça c'est pas la Fondation des Femmes qui le sollicite, c'était une idée du ministre de l'Intérieur, hein, Monsieur Darmanin, sur un fichier des auteurs de violences conjugales, sur le même principe que le fichier des auteurs de violences sexuelles.
Je pensais que vous étiez aussi favorable, vous, de ce côté-là, à ce
non, là, non. Nous, on salue toutes les actions et initiatives qui peuvent renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Ça ressort aussi de la mission d'inspection du drame de Mérignac, des mesures retenues par le Premier ministre, très bien, notamment la fusion, vous le disiez, des fichiers police-justice pour l'évaluation du danger de la victime. On a deux grilles d'évaluation aujourd'hui qui coexistent, données aux services de police et de gendarmerie. C'est pas très efficace, donc on pourrait de fait les fusionner.
C'est-à-dire, pardon, raconter.
En fait, on a un premier programme qui est le programme dit EVI, d'évaluation des victimes, sous l'égide du ministère de la Justice. Ça date d'une directive européenne de 2012. Mmh. C'est mis en place depuis 2016. C'est une évaluation assez large qui commence au stade policier. Et on a depuis le Grenelle, la loi du 28 décembre 2019, une grille d'évaluation mise en place avec les assos. Il y a 23 questions posées simples à la victime. On répond par oui ou par non. 4 sont rouges. Si on répond à 2 rouges, oui, on saisit immédiatement le parquet. Bon, et aujourd'hui, les policiers et les gendarmes sont censés disposer de ces deux grilles en parallèle et de les remplir et de les adresser ensuite au parquet. On pourrait effectivement n'en avoir qu'une seule. Vous voyez, ça, c'est des outils efficaces qui permettent de pallier l'absence de formation des policiers et des gendarmes pour poser des questions, savoir identifier, évaluer le danger immédiatement. On pourrait avoir qu'un seul outil. Il y a des mesures qui ont été proposées et retenues par le Premier ministre après la mesure d'inspection, la mission d'inspection, qui sont des bonnes mesures, mais encore faut-il avoir les moyens financiers. La volonté humaine, c'est formidable, mais c'est une priorité politique et il faut une réponse globale. Judiciaire, policière, ça c'est très bien, c'est la répression, c'est la protection, mais c'est aussi sociale et éducative, donc c'est de la prévention. Et pour tout ça, il faut des moyens. On peut s'inspirer de l'Espagne et du budget qu'elle alloue.
Alors, j'allais vous demander, c'est quoi la différence entre eux et nous ? Allons-y.
Lorsque l'Espagne a prévu l'installation des bracelets anti-rapprochement, elle a mis 15 millions dans la balance. Nous, on en a mis 7. Mm-hmm. Voilà. On consacre sur les violences intrafamiliales, par habitant, 5 euros par an. L'Espagne y consacre 16 euros. Donc, on mesure bien qu'effectivement, c'est un problème quand même, globalement, de budget. Et je voulais revenir sur l'histoire du fichier, mais je suis désolée de vous dire que le fichier, il existe, c'est quand même le casier judiciaire. Mmh. Qu'est-ce que va apporter un fichier supplémentaire, sinon encore et une fois, de porter quand même une forme d'atteinte à certaines libertés individuelles? On ne cesse de multiplier les fichiers, on ne cesse de multiplier effectivement des canaux différents d'information, des réunions, des comités de pilotage, etc. Et en fait, on ne fait rien pour simplifier les choses. Mmh. Cette année, à votre avis, combien de circulaires sur les violences intrafamiliales sont-elles parvenues au niveau des procureurs?
Allez-y, faites-moi peur.
Plus d'une dizaine. Mmh. En quelques mois, les procureurs de la République, qui sont ceux qui sont les moins nombreux en Europe et qui ont le plus de tâches à effectuer, le plus de missions, et je vous rappelle qu'ils sont 3 pour 100 000 en France, la moyenne européenne, elle est de 11,25. Et pour les juges, c'est le double aussi. Enfin, je veux dire, il faut à un moment donné poser les bonnes questions. Il faut arrêter d'empiler les réformes, les textes, les dispositifs.
Et aussi les mesures, parce que je vous entends, vous êtes en train de me dire qu'on a tout l'arsenal, en fait. On n'a pas besoin de grand-chose de plus, si ce n'est effectivement...
D'argent.
Exactement.
On n'a pas besoin de grand-chose de plus en mesure. Elles
mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin de remettre une pile, de rajouter...
Non, il ne faut pas. Et surtout, on répète toujours un peu la même chose, parce que là, la mission d'inspection pour Mérignac, elle nous dit, il faut donc évidemment deux objectifs, protéger les victimes, assurer et renforcer le suivi des auteurs, très bien. Comment on fait politique partenariale entre les différents acteurs et actrices, j'ai déjà dit. Mais ça, c'est déjà prévu depuis 2014 dans une circulaire. C'est repris par le Grenelle. Donc on le sait. Et on nous dit, il faudrait qu'il y ait un procureur ou une procureure chef d'équipe qui chapeaute toute la chaîne. Mais pour tout ça, effectivement, encore une fois, il faut avoir des moyens. Donc en fait, il n'y a rien de très nouveau dans ces mesures qui sont proposées. Non. En revanche, ce qu'on pourrait faire, inspirons-nous de l'Espagne qui fonctionne bien, vous avez raison en termes de budget, mais aussi par exemple pour des choses simples, c'est un logiciel. Parce que pour pouvoir mesurer et comprendre un phénomène, il faut savoir de quels chiffres on parle. Là, on a juste les chiffres du féminicide, donc des morts, comme ça, qui s'égrènent et c'est terrifiant. Mais on pourrait aussi avoir, comme en Espagne, c'est une plateforme qui s'appelle Viogène, qui permet de mesurer le nombre de plaintes, le nombre de condamnations, de récidives, avec ou sans suivi psychologique, le nombre de téléphones grave danger, etc., en circulation, ordonnance de protection, pour pouvoir comprendre exactement comment on applique les outils. Mmh. Combien de téléphones dans les placards versus combien de téléphones accordés à des femmes. Mmh. Donc c'est bien de nous dire augmentons les moyens techniques, mais augmentons les moyens financiers, et puis sachons exactement de quoi on parle. Mais,
et en même temps, dans les dysfonctionnements qu'on a pointés dans les affaires précédentes, on dit notamment qu'il y a un certain nombre de plaintes qui se sont accumulées à la police, qui n'ont jamais fait le trajet jusqu'à la justice, et donc une justice qui a les bras ballants parce qu'elle n'a pas pu rien engager. Je crois que c'était... Je suis désolé, je me souviens plus si c'était, c'est vous dire où on en est aujourd'hui, si c'était Mérignac ou Ayange, mais au fond, j'ai envie de dire dans les cas
Mérignac,
spécifiques.
Alors, dans Mérignac, le parquet a dit qu'il n'a pas reçu la plainte.
Ah non, oui, dans Mérignac, effectivement,
le policier dit,
de transmission de la police
vers la
justice.
Je l'ai envoyé, mais j'ai nettoyé ma boîte mail, donc je ne sais plus.
C'est voilà, donc Mérignac, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Bien sûr, manque de moyens, on est d'accord, mais là, pour le coup, c'est même pas une question d'argent. C'est une question de savoir ce qu'on fait de cette plainte qui vient d'arriver.
Et de procédure, parce que c'est le principe. Le policier reçoit une plainte, il avise le parquet. Le parquet est le chef d'équipe.
Exactement.
Le policier n'est que les yeux et le bras armé du parquet sur le terrain.
Après, c'est la complication des modes de communication.
Je m'interroge sur la simplification de ces courroies-là.
On se rend compte que ça n'est pas si simple. Le fait d'informer, là, on veut que tout le monde soit informé, par exemple. Mais informer, ça ne veut pas forcément dire répondre immédiatement, parce que les outils ne permettent pas nécessairement de répondre immédiatement. Les téléphones grave danger, ils ont quand même été bien utilisés. Il y en a 1300 sur 1800 qui sont utilisés. Le bracelet, bien évidemment, ça a vocation à monter en puissance, mais ça vient juste de démarrer. Donc on ne peut pas demander d'aller plus vite que ce que les pouvoirs publics n'ont pas fait, mais ça, effectivement, il y a des marges de progression. Mais on ne peut pas parler de dysfonctionnement à partir du moment où on n'avait pas les outils pour progresser. J'appelle ça plutôt des failles, mais des dysfonctionnements, je trouve que c'est un terme qui est quand même très responsabilisant. Mmh. Les parquets, les juges font ce qu'ils peuvent par rapport à la masse de dossiers, on leur demande de prioriser tout. Mais c'est à un moment donné, si vous priorisez les violences intrafamiliales, qu'est-ce qu'on va faire des trafics de stupéfiants si vous occupez savez-vous combien il y a de référents, par exemple, spécialisés dans les parquets en France? Mais il y en a plus d'une dizaine. L'environnement, la cybercriminalité, le terrorisme, et tout ça est considéré comme étant à prioriser. Mais comment fait-on avec un si faible nombre de magistrats? Comment fait-on?
Geneviève est avec nous, il ne faut pas qu'on oublie le standard. Bonsoir Geneviève.
Oui, bonsoir à vous et un grand merci pour votre émission. Voilà, moi, je me suis... ça fait une question qui me taraude depuis un moment. Justement, vous avez parlé là des policiers et des gendarmes qui reçoivent ces plaintes ou même des dépôts de plaintes ou des mains courantes. C'est souvent les premiers à être confrontés à la personne complètement désespérée. Et là, j'ai entendu, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai entendu qu'il y avait peut-être une personne, un policier qui va être peut-être suspendu parce que il a entendu à la fois le mari qui venait et qui disait qu'il allait tuer sa femme, et puis après il a entendu la femme qui disait « mon mari va me tuer », enfin bref. Donc moi, ma question, c'est ces personnes qui n'ont pas donner importance à ces dépôts de plainte, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a une procédure, est-ce qu'on peut les mettre, les confronter à être poursuivis à non-assistance à personne en danger, parce que il y a à un moment donné une légèreté, je pense, et il faut peut-être que Je ne sais pas comment dire.
Merci beaucoup Geneviève, je ne sais pas s'il y a une légèreté ou pas. Est-ce qu'il y a toujours enquête? C'est le sens aussi de la question de Geneviève. Est-ce qu'il y a toujours enquête après ce genre de dysfonctionnement-là ou pas?
Oui, bien sûr, maintenant il y a ce qu'on appelle, je n'aime pas ce terme, quand il y a des victimes, parler de retour d'expérience, c'est un terme absolument abominable. Mais malheureusement, ce sont les termes qu'on nous met dans nos circulaires. Il y a ces retours d'expérience, ou en tout cas ce qu'on appelle l'analyse des causes. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a effectivement des marges de progression certaines, mais j'ai envie de de vous le dire aussi en premier, la responsabilité, n'oublions pas la responsabilité première. La responsabilité première, c'est quand même celle de l'auteur. Mmh. Et comme l'a dit tout à fait ma contradictrice, c'est une question sociétale, d'éducation, de prévention. Va-t-on poursuivre le voisin parce qu'il a entendu crier la voisine de palier qui faisait l'objet de violence parce qu'il non-assistance à personne? Mmh. Enfin, on va très loin dans la responsabilité. Je pense qu'on est passé au second degré et on oublie que c'est un problème avant tout déjà de prévention. Je vous rappelle aussi qu'il y a 70% des homicides conjugaux qui n'ont été précédés ni de plainte auprès des services de police, mmh. ni de plainte auprès de la justice. Mmh. Donc on a quand même une marge énorme par rapport à ça.
Mais
et donc
c'est
là, c'est un
plus
problème
terrible.
Éducatif,
mais du coup, voilà,
problème de société, c'est d'autant plus terrible.
Mais c'est d'autant plus terrible quand il y a eu des précédents de se dire
oui,
que là,
on peut
pour
agir,
le coup, on pouvait éviter des choses.
On doit agir sur les 30%, on doit agir sur les 30%, mais il faut les bons outils pour agir. Et ce n'est pas en cherchant nécessairement les responsabilités, mm-hmm. mais en cherchant les éventuelles failles, les améliorations, les choses que l'on peut faire progresser. On parle aussi, on n'a pas encore parlé des services de probation et d'insertion qui suivent les personnes condamnées dans le cadre des aménagements de peine et donc dans les bracelets. Ils ont entre 80 et 100 mesures à suivre. Dans quelques années, ils doivent passer à 60 parce qu'il est établi, et le ministère le reconnaît, qu'ils ont trop de mesures. Ils ne peuvent pas faire un suivi suffisamment efficace. On leur demande quand même de fonctionner quasiment 24-24 alors qu'ils ne sont pas en capacité de le faire.
J'allais vous poser la question sur les signaux. Pareil, moi aussi, je déteste ce terme-là, ce qu'on appelle les signaux faibles ou les signaux forts. En fait, c'est plus facile lorsqu'on a en face de soi quelqu'un qui dit « je vais aller tuer ma femme ». Très bien, mais c'est évidemment jamais aussi simple que ça.
Tout à fait.
Comment on
c'est
fait
ça.
Pour évaluer ça? Est-ce qu'on sait faire ça, Zoé Royot? Est-ce qu'on est suffisamment formé pour faire ça, pour comprendre, pour entendre quels sont les signes qui sont censés mettre des gyrophares rouges partout autour d'une personne?
Oui, vous avez raison. Alors, tout dépend de qui est le « on ». Ce qu'il faut, c'est que ce soit les policiers et les gendarmes, notamment, qui puissent être formés à ça, savoir de quoi on parle. Les violences conjugales, on s'imagine que c'est forcément et uniquement des violences physiques. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. Ça commence par un climat de tension, des violences psychologiques, c'est économique, c'est sexuel, c'est parental. Donc ça, il faut pouvoir les détecter, parce que la victime n'est pas toujours en état de faire. Donc, est-ce qu'on est suffisamment formé? Non, je ne pense pas qu'on est suffisamment formé aujourd'hui, ni au stade de la police, ni au stade de la justice, des avocats, du personnel médical aussi, qui reçoit les victimes. Donc, et plus largement, je pense que c'est aussi l'affaire de toutes et tous. Il ne s'agit pas de sanctionner le voisin, mais en tout cas, il s'agit de lui dire, si vous entendez du bruit, il faut appeler les services de police. C'est important, c'est encore une fois l'affaire de toutes et tous. Et, par ailleurs, que le policier puisse transmettre par mail une plainte au procureur, ça ne me paraît pas être très compliqué. Donc s'il ne le fait pas, c'est une erreur qu'il a commise. Ça peut même être une faute. Je ne sais pas quelles seront les suites réservées à celui-ci ou à celle-là. C'est pas tellement la question, mais c'est aussi peut-être, vous avez raison, qu'ils sont débordés.
Il y a aussi que la dangerosité, c'est ce qui est le plus compliqué à évaluer. C'est quand même quelque chose de très compliqué. Dans l'affaire, manifestement, de cette défenestration sur Metz, si je ne me trompe pas, cet individu n'avait été condamné qu'une fois pour des violences, semble-t-il, plutôt légères, il y a 7 ans. Va-t-on considérer que cet homme était prédestiné, malheureusement, à défenestrer sa conjointe? Donc, c'est là où on se rend compte que c'est ce qu'il y a de plus difficile à évaluer.
Et je comprends mieux ce fameux questionnaire dont vous parliez tout à l'heure.
C'est fondamental. Royaux,
effectivement, oui, où il y a un certain nombre de signes qu'on peut voir et qui sont écrits là pour le coup en rouge sur ce fameux
problématique de l'alcool, des stupéfiants, est-ce qu'il a une arme ou pas, quel type de violence, depuis combien de temps, est-ce qu'il y a des enfants, bref.
Mais bon, les magistrats sont formés, je suis pas trop d'accord. On a des formations, on a des stages très importants là.
Je sais,
c'est vraiment monté en puissance depuis une dizaine d'années.
Bien sûr, vous avez raison, mais c'est pas forcément tous les magistrats français, malheureusement, pas forcément.
Non, mais on est particulièrement sensibilisés. Il y a vraiment un dévouement à la chose.
On parle de libération de la parole, vous avez raison, c'est l'écoute qui se libère plus que la parole.
Ouais. On aura une assistante sociale dans un instant, tiens, ça peut nous intéresser. Mais Richard nous attend depuis longtemps. Bonsoir Richard.
Bonsoir.
On vous écoute.
Mais écoutez, moi j'ai été interpellé tout de suite par le sujet de votre émission parce que je suis papa de deux jeunes filles. Alors j'essaie de leur apprendre que véritablement les garçons n'ont pas le droit de taper les filles, et Dieu sait que dans les cours d'école c'est des fois un peu compliqué comme message à faire passer. Mais moi je voulais vraiment comprendre pourquoi est-ce que la France n'appliquait tout simplement pas sa législation contre ces hommes violents qui sont des bourreaux vis-à-vis des femmes. Et j'ai eu un petit peu les réponses en écoutant vos invités, parce que on s'aperçoit qu'on a des choses. Et on voudrait juste comprendre pourquoi elles ne sont pas mises en œuvre pour éviter ces drames comme cette femme défenestrée. C'est, c'est quelque chose qui nous a profondément marqué dans la famille, mon épouse et moi, et mes deux filles, parce que c'est très violent, je trouve.
Merci beaucoup, Richard. Et en effet, on vous écoute, on vous entend. On sait qu'il y a des choses, on sait qu'il y a des progrès qui sont faits, on sait qu'il y a des téléphones grave danger supplémentaires, on sait tout ça. Mais il n'empêche, entre les mailles du filet, certains passent quand même.
Oui.
Quoi qu'il arrive.
Le risque zéro n'existera pas. Il faut avoir le courage de dire aux gens aussi que le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas fantasmer une société. On n'est pas dans Minority Report. Hein. La justice de prédiction, c'est impossible. On n'évitera pas, malheureusement, des drames.
C'est pas non plus ce qui se passe en Espagne, pays montré en exemple. D'ailleurs, on est très bas par rapport à ce que nous sommes. Et on s'est donné effectivement des moyens qui sont extrêmement importants. Mais effectivement, ça.
Mais vous n'éliminerez pas le crime de l'humanité. Ça fait partie. Le mal fait partie. Il y a le mal, il y a le bien. Et ça, on n'éliminera pas. Et on est passé dans une société un petit peu démagogique. Populiste, où on fait croire aux gens qu'il suffit de trouver la responsabilité et les failles pour venir dire finalement on aurait pu tout éviter.
Et vous avez raison, on n'est pas dans Minority Report. Moi je m'interroge toujours sur quand on a ces signes, Zoé Royaux, quand on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui peut être potentiellement très dangereux, peut-être qu'il boit, peut-être qu'il y a des signes avant-coureurs comme ça. Et en même temps, tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte réellement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on évite le moment où, pour une raison qui nous échappe, il se retrouvera face à son ex-campagne et ce sera la catastrophe?
Oui, vous avez raison, j'ai pas de réponse toute faite, pas de risque zéro, c'est vrai. Après, encore une fois, les violences conjugales, ce n'est pas uniquement des violences physiques. Mm-hmm. Donc si l'individu est effectivement alcoolisé avec un rapport de tension ou de violence psychologique, on y est déjà en fait. Donc ça, il faut pouvoir le détecter et ça veut dire aussi d'être attentif autour. Donc c'est le cercle familial, le cercle amical. Ce qui est terrible, c'est qu'on voit dans les féminicides, les voisins ou la famille qui disaient oui, c'est vrai qu'on avait vu qu'il était un peu désagréable.
Je savais que ça finirait comme ça.
Je savais que ça finirait comme ça. Et donc, alors évidemment, c'est plus simple quand on connaît la fin du film de dire je le savais. Mais c'est pas rien de dire ça aussi. Mm-hmm. C'est pas rien de se dire les policiers étaient déjà venus, ils avaient dit calmez-vous monsieur, c'est un différent conjugal, parce qu'on entend aussi ça. On nous dit aussi c'est un mari violent, mais c'est un bon père. Non, non. Donc ça, ça veut dire qu'il faut changer les mentalités là-dessus.
Ça a changé très récemment, effectivement.
Oui, mais c'est très récent.
Mais c'est très important.
Très récent, ça fait très important. Et ça dit pas rien. Donc ça veut dire qu'il faut être très attentif et ne pas considérer que la violence psychologique, c'est pas grave parce que ça laisse pas de bleu. C'est pas vrai. Mm-hmm. Donc être attentif et attentive.
Anne, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Anne.
Et merci de faire cette émission sur un sujet qui est quand même bouleversant. Hein. Donc, moi, je voulais poser la question de qui sont ces assassins? Que disent-ils? Est-ce qu'ils ont, quand on les récupère, est-ce qu'ils ont des paroles? Est-ce qu'ils ont des groupes de paroles où ils peuvent exprimer leur passage à l'acte? Est-ce qu'ils ont des raisons? Est-ce qu'ils sont raisonnables? Est-ce qu'on peut vraiment les écouter et comprendre ce qu'ils disent? J'ai vécu dans ma famille cette chose-là abominable, c'est que mon beau-frère a tué sa femme parce qu'elle voulait le quitter, malgré les 4 enfants qu'ils avaient fait ensemble. Et c'était un type brillant, intelligent. Je n'ai rien vu venir. Bon, c'était un homme très, très, avec un ego sûrement un peu surdimensionné, mais depuis, ça fait 20 ans, et je ne comprends toujours pas. Alors, je cherche sur Internet, mais qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils disent après ce qu'ils ont fait? Je ne trouve pas.
Je ne sais pas si on a votre réponse, Anne, et ce serait tellement plus simple, là aussi, peut-être, si on pouvait faire une espèce de portrait robot, évidemment que ça n'existe pas.
En tout cas, c'est plus simple et plus rassurant.
En tout cas, la séparation, effectivement, est un moment charnière. Et c'est vrai, c'est vraiment le moment le plus dangereux. Mais il y a, bien souvent, et cette dame vient effectivement de le dire, il n'y a pas forcément de signes avant-coureurs. Ça fait partie des 70% dont je vous parlais, que j'évoquais tout à l'heure. Et il n'y a pas de profil type. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est un reste de machisme, de domination masculine qui perdure parce que l'éducation fait que les garçons sont toujours valorisés par rapport aux petites filles? On vous le disait tout à l'heure avec The Royaux, c'est effectivement un problème complètement de société, un problème de prise de conscience, un problème des parents, d'éducation nationale. Enfin, tout le monde doit prendre, des médecins aussi de famille, tout le monde doit prendre à bras le corps ces choses-là. Mais la séparation est quelque chose qui manifestement est beaucoup plus mal géré par l'homme que par la femme. d'ailleurs, alors même que c'est souvent la femme d'ailleurs qui prend l'initiative de la séparation, tant que j'affe, je peux vous le dire, même si c'est l'homme qui éventuellement a une aventure ou des choses de ce genre, c'est souvent la femme qui prend cette décision de se séparer parce qu'elle a les ressources.
Il ne l'a plus sous la main à ce moment-là. Et c'est
elle lui échappe en réalité.
Il ne s'échappe pas, c'est un sentiment de propriété en fait. Moi je le ressens, enfin je l'ai ressenti au terme des auditions que j'ai menées, au terme des audiences, etc. On a le sentiment qu'on a une forme d'appartenance. Déjà on porte leur nom, vous voyez maintenant ça a un peu évolué, on porte chacun, on peut porter son nom, etc. Oui, mais dans la symbolique, ou pas, dans la symbolique, quelque part, c'était, vous quittez un peu votre nom, vous prenez. Et moi, combien de femmes.
Le père pour le mari.
Le père pour le mari, combien de femmes m'ont dit, je peux reprendre mon nom de jeune fille, je ne cessais de le répéter, mais vous ne l'avez jamais perdu. Donc il y a un sentiment d'appartenance.
Déjà le terme, déjà nom par de jeune fille.
Voilà, nom de jeune fille. Est-ce de la domination, est-ce ce machisme qui peut perdurer chez certains hommes? Et ce qui est troublant, et je comprends ce témoignage, c'est que bien évidemment, malheureusement, le plus souvent, ça n'est pas forcément prévisible.
Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, le moment clé, ça peut être celui de la rupture. Maintenant, on a vu dans les cas précédents aussi, est-ce qu'il y a d'autres moments clés? J'imagine, par exemple, je ne sais pas, une sortie de prison, un moment dans un suivi, y compris si l'homme a été suivi, y compris s'il y a eu de la prison, etc. Est-ce qu'il y a des moments clés comme ça que peut-être là aussi, il suffirait peut-être qu'on les regarde avec un peu plus d'attention et on se rendrait compte d'un certain nombre de choses.
Vous avez raison, c'est à la fois la séparation ou les retrouvailles, si je puis dire, contraintes et forcées à la sortie de prison avec un homme qui n'a pas été évalué psychologiquement, psychiatriquement, dont on ne sait pas s'il regrette les faits, s'il les a compris. On n'a pas l'impact du suivi, ça on devrait le mesurer aussi. Est-ce qu'il y a une récidive quand il y a eu un suivi psychologique? Est-ce que ça marche, le stage de responsabilisation? Voilà, qu'est-ce qui fonctionne? Ça, il faudrait avoir des chiffres là-dessus. Je vous le disais, avec une plateforme, un logiciel qui permettrait de mesurer toutes les étapes de ces féminicides ou ces violences conjugales.
Qu'est-ce qui se passe,
qu'on puisse savoir
justement, effectivement, après leur prise en charge à eux, c'est-à-dire, est-ce qu'ils progressent, eux? Est-ce qu'il y a moyen de mettre des mots derrière? Peut-être que Chloé peut nous aider là-dessus. Bonsoir, Chloé.
Bonsoir.
Vous êtes assistante sociale, Chloé. Vous travaillez avec des victimes de violences. Vous nous dites effectivement qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites pour les femmes, évidemment. Quid pour les hommes? Qu'est-ce que vous savez de cette prise en charge-là, vous?
Alors, je sais qu'effectivement, il y a des stages pour les hommes qui sont auteurs de violences, mais je trouve que comparativement à ce qu'il y a pour les femmes, il y a très 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 peu de prise en charge pour les hommes. Alors après, peut-être que vos invités pourront m'éclairer là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de solutions par rapport à ça. Alors il y a de la prévention bien sûr dans les écoles. Hein. Mes collègues font de la prévention, notamment égalité filles garçons. Mais il n'y a pas vraiment d'autre chose. En tout cas, de prise en charge, c'est assez léger, quoi.
Merci beaucoup, Chloé. Et c'est intéressant parce que j'imagine que le réflexe, c'est de dire c'est la femme qui a besoin qu'on l'aide pour l'instant. Donc, lui viendra en deuxième position. Peut-être que c'est une erreur.
Alors, il y a un changement, je pense, de paradigme qui est en train de s'opérer. Moi, je n'ai jamais compris, effectivement, pourquoi on avait multiplié les centres d'hébergement pour les femmes au lieu de les multiplier pour les hommes. Pourquoi est-ce que c'est à la femme qui est justement l'objet de violences, ou physiques ou psychologiques, de quitter le foyer, de quitter l'adresse? Mais on aurait développé, il y a beaucoup plus tôt, il y a des structures qui existent, hein. Moi je viens donc du Pas-de-Calais, par exemple ce qu'on appelle le Home des Rosatis à Arras, qui est une structure formidable, qui marche depuis des années, parce qu'on a eu un procureur qui a créé, qui est à l'origine un peu de toute cette prise en charge, et ça marche à Arras, la prise en charge des hommes violents, ça marche. Il y a des groupes de parole, etc. En détention, il y a aussi des groupes de parole, mais il y a aussi les moyens que l'on met en prison pour aider les personnes au cours de leur détention, et ces moyens sont aussi notoirement insuffisants. Il faut pouvoir les développer, mais pour cela il faut des psychologues qui interviennent. Là aussi c'est une question de moyens dédiés.
Et puis la justice qui ne condamne pas forcément à des soins ces hommes-là, qui considèrent que les soins ne serviront à rien.
C'est pas obligatoire.
Non, c'est pas obligatoire. C'est une injonction, une obligation ordonnée par un magistrat ou une magistrate. Si c'est pas le cas, il y en a pas. C'est au bon vouloir de l'individu, éventuellement dans l'aménagement de peine pour montrer patte blanche, si je puis dire. Mais c'est pas du tout une obligation. Il faut que la justice ordonne plus souvent des soins pour une prise en charge.
Ça va dans le sens de la question de Laurent qui nous dit sur franceinter.fr. Il existe une mesure de l'éviction du conjoint violent qui est sous-utilisée. Les magistrats ne s'en saisissent que très peu car il n'y a rien en face pour héberger les auteurs de violences et il manque de budget pour faire fonctionner les mesures existantes.
Ça rejoint ce que je viens effectivement de vous dire. C'est parce qu'on a vraiment changé de paradigme depuis trop peu de temps et on est en train de considérer qu'il faut effectivement développer les structures pour permettre aux hommes de comprendre leur passage à l'acte, d'y réfléchir. Et certains, il y a eu des tas de reportages que j'ai moi-même visionné. Et c'est assez. Alors certains ne changent pas.
Il y a un podcast de France Culture, j'en profite puisque c'est la maison. Magnifique sur ce sujet. sujet très effrayant aussi quand on entend certaines paroles d'hommes, effectivement, de ce point de vue-là. Moi, je suis étonnée que l'injonction à se soigner ne soit pas quasi automatique. En fait, même avant les coups, d'ailleurs, vous parlez de pression psychologique, de harcèlement psychologique, etc. Moi, je suis très étonnée qu'un juge systématiquement n'ordonne pas...
Parce que je pense qu'on ne voit pas la particularité de ce passage à l'acte-là et ce que ça peut vouloir dire en réalité. Et que ce n'est pas simplement la sanction suffira, il ne recommencera pas. Je crois qu'on ne comprend pas que c'est, encore une fois, une réponse qui doit être beaucoup plus globale. On le disait, c'est de l'éducation, de la prévention, mais aussi une pédagogie pour pouvoir effectivement avoir cette prise en charge-là. Et même en matière de violence sexuelle, il y a peu de condamnations à des soins. Alors que je pense que c'est une solution, c'est une vraie piste qui doit être mise en place. Et je pense qu'on pourrait le mesurer avec un peu de recul.
Alors parfois, les personnes qui comparaissent pour être jugées sur les violences ont déjà accompli cette démarche. Donc d'où effectivement pas d'obligation de soins d'ordonner, parce qu'il y a déjà eu des soins qui se sont faits, il y a une prise de conscience. Enfin, on ne peut pas généraliser. Chaque dossier est quand même complètement différent. Il y a aussi parfois des femmes qui... Parce que ça aussi, il faut oser le dire, des femmes qui viennent à l'audience, qui disent « Mais moi, je ne veux pas qu'il aille en prison, je ne veux pas qu'il soit condamné, j'ai fait ça pour qu'il arrête, je le reprends, c'est ma source de revenus. » Enfin, il y a tout ce phénomène d'emprise dont on n'a pas parlé, qui est très complexe. Hein, quand je dis ça, ce n'est absolument pas une critique de ma part, parce qu'on a très bien compris, et on le sait de plus en plus, qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué pour elles d'avoir une opinion différente, de dire « Je veux qu'il parte », etc. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a aussi parfois des prises de conscience dont le juge se dit « C'est peut-être pas nécessaire de lancer l'artillerie lourde. » Et puis, il faut aussi que ça soit ce qu'on appelle le milieu ouvert, la prise en charge psychologique. Il faut aussi des psychologues qui prennent en charge les structures. Et on est en manque par rapport à ça. On est quand même en grand manque.
Mais c'est pas un suivi qui durerait une journée ou deux mois. On est sur une chose beaucoup plus longue.
Il y a des stages de responsabilité.
Oui, mais c'est une journée. C'est pas suffisant. Je veux dire, il faut comprendre l'ampleur du problème. Et effectivement, vous avez raison, l'ampleur de l'emprise. Donc, c'est pas parce que la femme dit « Je le reprends » que le type n'a pas besoin d'être soigné.
C'est certain.
On comprend qu'on n'est pas au bout. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais que c'est important d'en parler, de continuer à le faire. Et on le refera évidemment aussi souvent que possible au téléphone sonne. Je vous remercie beaucoup. Et merci à tous aussi pour vos nombreux appels.